conférence missionnaire. Et je commence avec un peu de réalisme. Deux missionnaires se disputent. Ils ne s'entendent plus. Pas pour un sujet théologique, pour une question de méthodologie. Mais cette dispute, ce différend, est si important que ces deux missionnaires chevronnés se séparent. L'un de ces missionnaires recrute encore un collaborateur, aussi un stagiaire, et ils partent. Projet grandiose d'implantation d'église. Deux échecs cuisants. Finalement, ils arrivent dans une ville et là, ils trouvent quelques croyants qui se réunissent. Et là, ils implantent une église. Ce n'est pas l'église de Toulouse, mais ça aurait pu être l'église de Toulouse. Mais c'est l'église de Philippe. Paul et Barnabas, après le premier voyage missionnaire, finalement ne s'entendent plus au sujet d'un jeune collaborateur du nom de Jean-Marc. Ils les avaient abandonnés pendant le premier voyage. Jean-Marc rentre à la maison. L'évangélisation en Chypre, c'était fantastique. Là, on a vu des personnes qui se convertissent, particulièrement à Paphos, c'était fantastique. Et puis ils arrivent en Pamphylie. Il n'y avait pas de l'Ebola, mais il y avait des brigands, et il y avait également des maladies extraordinaires. Et Jean-Marc, devant finalement cette hostilité, ce terrain hostile, il rentre à la maison. Paul et Barnabas continuent, ils fondent 4 églises en Galatie. Et puis après le premier voyage, quelque temps à Antioche, ils veulent reprendre avec eux, tout au moins Barnabas, il veut reprendre Jean-Marc. Et Paul dit non, pas question. Il nous a lâchés, on ne le reprend plus. Et donc Paul et Barnabas se séparent. Barnabas va avec Jean-Marc sur l'île de Chypre. Paul recrute Silas. Et puis, lorsqu'il passe à Lystre, il prend avec lui Timothée. Timothée avait 20-21 ans. Probablement, il s'est converti lors de son premier voyage missionnaire, lorsque Paul fondait ses églises en Galatie. Probablement. Timothée devait être excité à l'idée de travailler avec l'apôtre Paul. Et puis, ils ont le projet, en tout cas Paul avait le projet d'aller vers Éphèse. Et puis le Saint-Esprit les empêche. Bon. Après, ils ont le projet d'aller en Bithynie. Le Saint-Esprit les empêche. Timothée devait se poser la question, mais finalement, ce Paul, qu'est-ce qu'il sait de la volonté de Dieu? S'est-il trompé? Je croyais que c'était celui qui avait rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Je crois que c'est celui dont on avait dit, « Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils arrivent dans un bled perdu, Troas, et là, Paul reçoit à nouveau un appel direct du Seigneur pour aller en Macédoine, en Europe, si l'on veut, Grèce. Et là, toute l'équipe de Paul est du même avis. Ils arrivent à Philippe. Et dans cette ville de Philippe, il n'y avait pas de synagogue, parce que pour qu'une synagogue puisse survivre, il fallait un certain nombre d'hommes pour faire le quorum. Mais il y avait un groupe de femmes qui priaient près d'une rivière. Et là, Paul se joint à ce groupe de femmes, dont Lydie, et une église naît. Peu de temps après, il rencontre une jeune fille manifestement possédée par Satan, mais qui finalement a un don de divination et qui permet à ce que ses maîtres, ses gérants, gagnent pas mal d'argent. Paul, à un moment donné, excédé, libère cette jeune fille, chasse cet esprit démoniaque et finalement, ses maîtres perdent leur gain-pain. Et cela crée toute une émeute dans la ville. Et Paul et Silas sont jetés en prison. D'abord, ils sont traînés devant les prêteurs de la ville, et ensuite jetés en prison. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Paul et Silas, minuit, chantent des cantiques. Tremblement de terre, ce qui est assez courant dans cette région de Philippe. Tremblement de terre, mais voulu par Dieu. Et puis finalement, le geôlier, sa famille, se convertissent. L'église de Philippe ne devait pas exister. Finalement, Paul ne voulait pas aller à Philippe. Il voulait aller vers Éphèse. Il voulait aller vers le nord de la Bithynie. Mais finalement, il se trouve, parce que Dieu l'y a obligé, il se trouve à Philippe. 10 ans plus tard, il se trouve en prison, probablement à Rome, et il a reçu pas mal de nouvelles de cette jeune église de Philippe. Épaphrodite lui a apporté donc de l'aide matérielle. Et Paul écrit une lettre à cette église, la lettre aux Philippiens, dont vous avez entendu les premiers 24 versets, mais ils ont oublié de lire les versets 25 et 26. Peu importe. Mais vous avez, en tout cas, écouté les 24 premiers versets. Une église que Paul aimait particulièrement. Il dit ici, dans ce premier chapitre, vous l'avez entendu, où Paul dit « Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur. Dieu m'est témoin que je vous chéris. » Paul avait un rapport particulièrement intime et affectueux avec cette église de Philippe. Et cela s'entend dans toute cette lettre. Pourtant, Paul n'était pas du tout dupe. Il savait que dans cette église de Philippe, il y avait des problèmes, comme dans toutes les églises, y compris celle de Toulouse. Je peux en parler parce que je ne la connais pas. Mais je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire que dans l'église de Toulouse, il y a aussi des problèmes, aussi longtemps que nous sommes ce côté-ci de la consommation de toutes choses, avec des êtres aussi imparfaits que vous, il y a des problèmes. Et Paul écrit cette lettre, et avant de faire quelques recommandations, il n'hésite pas de faire en quelque sorte un bilan de santé, de faire un diagnostic de l'Église. Et ce que je vous propose ce soir, effectivement, c'est de regarder quelles sont les difficultés que Paul mentionne dans cette lettre aux Philippiens. La plupart des problèmes dans cette église de Philippe, on les trouve dans pratiquement toutes les églises. Ça fait maintenant depuis 45 ans que je suis missionnaire en France et que je circule passablement, que je visite les églises, que j'écoute, j'entends, je parle avec les anciens, les pasteurs, et je me rends compte que cette église de Philippe est symptomatique pratiquement de toutes les églises que je connais. On va parcourir donc cet épître et juste regarder ce qu'il dit par rapport à certaines difficultés qu'il constate. Il n'est pas toujours tendre dans son langage, l'apôtre Paul. Il va droit au but, pas de langue de bois. Verset 2 du chapitre 3, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Langage fort. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Pourquoi un tel langage? Dans pratiquement toutes ces églises de l'époque, il y avait un certain nombre de juifs convertis. Mais plus encore, il y avait des juifs probablement convertis qui circulaient dans ces nouvelles églises et qui créaient la zizanie en disant « mais il fallait absolument, pour que les païens soient des chrétiens à part entière, qu'ils soient circoncis, qu'ils respectent les lois alimentaires juives ». Et donc, il y avait ce que Paul appelle ces mauvais ouvriers qui rajoutaient au message de l'Évangile. Certes, le message de l'Évangile était prêché, mais il y avait des rajouts au message. Et cela, on trouve de tous les temps. Les personnes qui, tout en prêchant l'Évangile, disent que pour être vraiment un chrétien à part entière, mais il faut ceci, il faut cela, il faut ajouter ceci, il faut ajouter cela. Ce sont les personnes qui circulent dans les églises et qui créent des problèmes. Ils ont souvent droit à la parole. Ils ont certainement des dons, des charismes pour enseigner, pour parler, mais ils communiquent finalement des vérités qui peuvent être des vérités, mais en les mettant sur un même pied d'égalité que le message de l'Évangile. Et c'est de là que nous avons des problèmes. À partir du moment où nous mettons sur un même pied d'égalité d'autres vérités secondaires, nous sommes devant des difficultés énormes. Je pourrais citer, autant le faire, lorsque nous voyons parfois certaines de nos églises qui conduisent des campagnes « salut et guérison ». Je ne suis pas opposé à l'idée de guérison. Dieu peut-il guérir aujourd'hui? Oui. Mais il nous faut faire très attention de ne pas mettre sur le même pied d'égalité la guérison et le salut. Et on peut rajouter quantité d'autres choses. À l'époque donc, c'était les coutumes du judaïsme. Dans toutes les églises, de tous les temps, nous avons des personnes finalement qui veulent imposer leurs chevaux de bataille, leurs idées au message de l'Évangile. On peut les appeler d'une certaine manière des légalistes. Il n'y a qu'à, il ne faut que. Les personnes finalement qui veulent que l'on puisse se conformer à leurs idées. Ils cherchent des adeptes. Et ces personnes existaient dans ces églises et en Galatie, mais également en Grèce et dans ces églises de Philippe. Paul met en garde. Prenez garde. Prenez garde. Ne vous permettez pas d'être finalement dévié par des personnes qui rajoutent à l'Évangile des exigences en les mettant sur le même pied d'égalité avec l'Évangile. Faites attention. De l'autre côté, il y avait dans cette église, chapitre 3, et les versets 18, 19 et suivants, ce que l'on pourrait appeler des laxistes. Paul en parle, et il dit même, il en parle en pleurant. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant en pleurant. La fin, c'est la perdition, le Dieu, c'est la vente. Ils mettent la gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est un langage imagé, tout simplement pour parler qu'il y a aussi dans l'Église des personnes qui, pratiquement en opposition à ces chiens, ces mauvais ouvriers, les personnes qui vont tout à fait dans l'autre sens et qui relativisent toutes les vérités, qui amoindrissent la gravité du péché. Les laxistes, Paul dit, ce sont les personnes qui font de leur ventre leur Dieu. C'est un langage symbolique, imagé, pour dire que ce sont des personnes qui vivent en fonction de leurs appétits, en fonction de leurs passions et de leurs pulsions, et qui, à force de vivre en fonction de leurs appétits, commencent à les rationaliser, les expliquer, et ainsi rendre néant l'œuvre de la croix. Ces deux problèmes-là, on les trouve dans la plupart des églises. Quand il y a dans les églises des personnes qui veulent absolument imposer leur façon de voir, leur méthodologie, leur recueil de chants, leur manière de faire de l'évangélisation, qui pensent que c'est la méthodologie qui est aussi importante que la théologie, quand nous avons ces personnes-là, inévitablement, nous avons des personnes qui réagissent contre, qui vont tout à fait dans l'autre sens et qui veulent découvrir, soi-disant, la liberté. Paul, il en parle dans ses lettres. Pierre en parle. Ce sont finalement les nuages sans pluie. Ils ont les discours grandiloquents, mais creux. Ils vous promettent la liberté, mais finalement, ils sont esclaves de la passion. Et nous constatons cela encore dans l'histoire de l'Église. Des personnes, finalement, qui, au nom de la liberté, amoindrissent la gravité du péché, rationalisent tout ce qui est ignoble et innommable. Et nous vivons cela aujourd'hui. Les débats aujourd'hui dans le domaine éthique, les débats aujourd'hui par rapport aux mœurs. La semaine dernière, vous me permettez que j'enlève la veste, tout le monde le fait sauf moi. La semaine dernière, donc, à l'Institut, je donne toujours en début d'année un cours sur fréquentation, sexualité et mariage. Et je commence toujours avec un questionnaire où je les mets un petit peu en situation de conflit les uns avec les autres pour qu'ils puissent se débattre autour de ces questions. Et je suis toujours étonné de constater le flou artistique qui existe dans l'Église en France par rapport à tout ce qui est fréquentation, mariage, sexualité. Et parce qu'il y a le flou, il y a finalement les dérapages. Et donc on trouve ces deux tendances. J'ai cité plus d'une fois, je ne fais aucune excuse de le faire à nouveau, cette citation de l'un des pères de l'Église, deuxième siècle, Tertullien, qui a dit ceci. Tout comme on a crucifié Christ entre deux brigands, aujourd'hui nous crucifions l'Évangile entre deux voleurs, le légalisme et le laxisme. Parce que les deux, ce sont des non-évangiles. Les deux, ce sont les évangiles qui dépendent finalement de l'effort des hommes. Je fais ceci et je fais cela pour me plaire moi-même ou pour plaire aux autres qui me l'imposent. Ou, finalement, je méprise la croix de Christ, je foule aux pieds le sang de Christ, parce que je vis en fonction de mes passions et de mes pulsions. Et les deux tendances, les deux extrêmes, ce sont les anti-évangiles, les faux évangiles. Et nous les trouvons dans nos églises évangéliques. Et Paul dit à Philippe, vous avez ces deux tendances. Mais vous avez lu, vous avez cité dans votre citation du premier chapitre quelque chose de poignant, quelque chose de terrible dans le fond. Vous l'avez remarqué? Verset 15. Certains, il est vrai, prêchent le Christ par envie et rivalité, mais d'autres le font dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là annoncent le Christ dans un esprit de rivalité et leurs intentions ne sont pas pures. Ils pensent ajouter quelques tribulations à mes chaînes. Voilà ce que dit Paul. Dans toutes les églises, il y a la rivalité. On ne peut pas l'éviter. À partir du moment où vous avez un groupe d'anciens, un groupe de responsables d'école de dimanche, un groupe de responsables de groupe de jeunes, il y a quelque part des rivalités. C'est facile pour moi pendant ce week-end, je suis seul prédicateur, donc je n'ai pas de rival. Mais si j'étais l'un des prédicateurs avec trois autres, et chacun d'entre nous avions une rencontre, il est certain, me connaissant comme je me connais, qu'il y aurait une tendance à vouloir faire mieux que les autres. Une tendance à vouloir quand même toucher plus que les autres. C'est dans ma nature. Cet esprit de concurrence et de rivalité. Et ça existe. Mais ce que dit Paul, c'est que l'esprit de rivalité à Philippe était encore pire. Parce que ceux qui, finalement, prêchaient l'Évangile pour concurrencer l'apôtre Paul, le faisaient délibérément pour lui créer du tort. Il voulait finalement, dit Paul ici dans le texte, ajouter quelques tribulations à ses chaînes. Il voulait finalement qu'il souffre davantage. Ce n'était pas uniquement ce que j'appellerais une rivalité humaine compréhensible, mais qui doit être confessée, mais c'était une rivalité malsaine et perverse. Parce qu'il voulait faire du tort à l'apôtre Paul. Et dans l'église de Philippe, il y avait ces personnes-là qui prêchaient, qui annonçaient le message de l'Évangile. Et c'est ce qui explique pourquoi, déjà au chapitre 2, nous avons finalement cette introduction extraordinaire à ce résumé de l'Évangile, et où Paul exhorte l'église de Philippe, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochable et pur, et ainsi de suite. Alors ça, c'était un problème grave dans l'église de Philippe. Cet esprit de concurrence, où chacun, non seulement voulait faire meilleur que l'autre, ou mieux que l'autre, mais où en plus on voulait rajouter aux souffrances et à la peine de l'apôtre. C'est pas tout. Bilan de santé. Chapitre 4, verset 2. Un conflit ouvert. Deux sœurs, Évodie, Saint-Tiche, qui finalement ne se supportaient plus. Et pourtant, dit Paul, elles ont combattu à mes côtés pour l'Évangile. Probablement, je n'en sais rien, mais probablement elles faisaient partie de ce groupe de prière que Paul avait trouvé au départ pour fonder cette église de Philippe. Et ces deux sœurs, c'était des piliers, c'était finalement des collaboratrices de l'apôtre dans l'évangélisation à Philippe. Elles ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile. Mais maintenant, elles ne se supportent plus. Elles ne peuvent plus s'entendre. Ils arrivent dans l'église le dimanche matin, elles vont de deux côtés différentes. Ils se saluent peut-être avec le salut évangélique hypocrite à la fin du culte, mais finalement, il n'y a aucun rapport, aucune entente. Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que finalement, le mari de l'une a été nommé ancien et le mari de l'autre pas? Ça, c'est possible. Ça, c'est le genre de choses qui créent des histoires de famille. Hein? Mais en tout cas, il y avait dans cette église ce conflit ouvert entre ces deux femmes mûres. Et puis, pour terminer, chapitre 3, verset 15. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous en sommes parvenus, avançons ensemble. Il y avait dans cette église de Philippe des différences d'avis que je qualifierais de légitimes. Vous avez beau tous faire partie d'une même église, vous avez la même étiquette au-dessus de votre porte. Vous avez probablement étudié en profondeur votre confession de foi, donc vous savez tout ce qui est dans votre confession de foi. Vous pourriez le citer par cœur comme Philippiens 1. Vous êtes tous du même avis dans tous les domaines. Je vais changer de sujet pour le message et prêcher sur le mensonge. Non, on est tous différents. On est tous différents. Et il y a des domaines où une différence d'avis est légitime. Si je disais que Dieu ne nous a pas tout dit dans l'Écriture, ça vous choque? Il nous a révélé tout ce qu'il nous faut pour le salut, pour notre marche avec lui. Mais nous n'avons pas finalement toute connaissance par rapport à tout ce qui touche au mystère qu'est Dieu. Et il y a des domaines même par rapport à tout ce qui est, je dirais, la doctrine, où nous n'avons pas toute la vérité. D'ailleurs, Paul parle dans ces termes d'une connaissance partielle, comme quoi nous voyons au travers d'un miroir ou d'un verre opaque. Nous n'avons pas le monopole de la vérité et nous n'avons pas la totalité de la vérité. Si moi je voulais créer la zizanie dans l'église de Toulouse ce soir, je pourrais le faire en 5 minutes, rien qu'au sujet du baptême. Je prends le sujet du baptême. On y va? On va créer, combien de personnes ici? 80? On va créer 80 églises à partir de ce soir. Quand est-ce qu'il faut baptiser les personnes? Tout de suite après leur conversion? Ou est-ce qu'il faut attendre un certain moment jusqu'à ce que l'on constate que finalement il y a des fruits de la repentance et une certaine maturité? Quelqu'un répondrait, mais finalement dans le Nouveau Testament, toutes les personnes qui se sont converties ont été baptisées tout de suite après la conversion. Moi j'ai un ami en Belgique qui a créé plusieurs églises du côté flamand et lui il avait la pratique de tout de suite baptiser les personnes après la conversion. Et lorsque les personnes étaient pétrifiées, horrifiées devant cette idée, ils leur disaient, mais dans le Nouveau Testament, c'est ainsi. Il n'y avait qu'une seule exception. C'est le brigand sur la croix. Donc je vous donne le choix. Baptême ou crucifixion. Est-ce qu'il faut un cours de préparation au baptême? Est-ce qu'on doit être baptisé avant de prendre la Sainte Cène? Est-ce que pour devenir membre de l'Église, il faut être baptisé? À partir de quel âge peut-on baptiser les enfants? Et je pourrais continuer. Tout cela pour dire que nous ne sommes pas forcément tous du même avis. Et on pourrait prendre quantité d'autres sujets, que ce soit autour de l'eschatologie, le retour de Christ, que ce soit la question de création, Genèse 1-11, que ce soit la question, est-ce que les dons spirituels existent encore aujourd'hui? Il y a quantité de sujets où nous ne sommes pas tous du même avis, mais où nous ne pouvons pas et nous ne devons pas exclure qui que ce soit si nous sommes d'un avis différent dans ces domaines. Et Paul dit ici que nous tous, donc, nous sommes des hommes feuilles, nous voulons tendre vers une même pensée, mais s'il y a encore des différences d'avis, mais Dieu va nous révéler progressivement, mais au point où nous en sommes, puisque nous avons l'essentiel, avançons ensemble d'un même pas. Ne sombrons pas dans les faux combats. Ne nous engageons pas dans les combats qui finalement ne valent pas la peine. Et Paul, quand il écrit, donc à cette église de Philippe, église qu'il aime tendrement, il n'hésite pas finalement de mettre en exergue les difficultés dont il a entendu parler. Une jeune église qui n'a que 10 ans d'existence. Attention aux chiens, les mauvais ouvriers. Attention finalement à ceux qui amoindrissent la gravité du péché. Attention à ceux qui travaillent dans un esprit de rivalité pour faire du tort aux autres. Et puis devant ces conflits ouverts, où est l'Évangile? Où est l'Évangile? Et puis, il y a des domaines où nous devrions avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons pas le monopole de la vérité, que nous devrions, dans l'humilité, nous confronter les uns les autres devant la parole de Dieu pour, comme dit Paul aux Éphésiens, progressivement tendre vers l'unité de la foi et la connaissance de Christ. Mais c'est un processus. C'est un processus. Ceci étant, comment Paul aborde-t-il cette église de Philippe? Deux choses qui me paraissent importantes pour ce soir. L'église, j'allais dire, L'église est moche, puisque vous y êtes. L'église n'est pas belle. Beaucoup de tâches, beaucoup de rides. Oh, il y a beaucoup de sujets de joie. C'était fantastique d'entendre les témoignages. Mais il y a beaucoup de tâches et de rides. Georges Vervaire, le fondateur d'OM, il a l'habitude de dire que le problème aujourd'hui, ce n'est pas la missiologie, c'est la... Il faut comprendre l'anglais maintenant. Hein, c'est la messiologie. L'Église, c'est vraiment dans un piteux état parfois. Et on pourrait parler de misériologie. Ça, c'est l'Église. On s'étonne de la grâce et de la patience de Dieu. Et Paul, devant cette Église de Philippe, il l'aborde avec toute sa tendresse. Et la toute première chose qu'il fait, c'est d'affirmer. Affirmer. Vous connaissez tous verset 6, hein? Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Paul avait cette extraordinaire capacité, malgré tous ces problèmes qui sévissaient dans les églises, de regarder l'église et de dire, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette œuvre bonne, il va la poursuivre jusqu'à son achèvement. Il avait suffisamment de recul, d'une part, mais il avait également une confiance totale dans l'œuvre du Saint-Esprit, que malgré tous les problèmes qui existent, parmi les chrétiens nés de nouveau, régénérés par l'Esprit, mais qui étaient finalement des échardes dans la chair de la vie de l'Église, ils pouvaient prendre du recul et avec une confiance totale dans le Saint-Esprit, dire « Je suis persuadé ». Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est justement de réfléchir par rapport aux personnes qui vous posent problème dans l'Église. Et vous qui allez partir en mission, Clément, en Côte d'Ivoire, il ne faut pas croire que tout est rose. J'y étais plusieurs fois. Et les problèmes de l'Église en Côte d'Ivoire sont énormes. Où que l'on aille. Mais il faut que l'on s'engage dans la mission, il faut qu'on s'engage dans l'œuvre de Dieu, non avec cynisme, ni avec pessimisme, mais ni avec triomphalisme, mais avec un réalisme, mais ce réalisme est fondé sur l'Écriture. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, il va poursuivre cette œuvre jusqu'à son achèvement. Pourquoi est-ce que Paul peut le dire? Pourquoi est-ce que Paul peut dire cela? Parce qu'il sait pertinemment que l'œuvre dans chacun de ces chrétiens, dans cette église de Philippe, c'est l'initiative de Dieu. D'ailleurs, c'est ce que dit Paul. Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne. D'ailleurs, lorsqu'il est question de la conversion de Lydie, la première convertie de l'église de Philippe, Paul, Luc, dans les Actes, dit de manière tout à fait pertinente, le Seigneur lui a ouvert le cœur pour accepter la parole. Il ne fallait pas moins qu'un tremblement de terre pour que le geôlier se convertisse. Il ne se serait pas converti sans ce tremblement de terre, probablement. Cette église de Philippe, finalement, ne devait pas exister, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est Dieu qui a commencé son œuvre dans chacune de nos vies. Nous sommes confrontés à la souveraineté de Dieu et au choix de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, en Christ, Dieu nous a élus, choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à devenir ses fils d'adoption. L'œuvre de Dieu dans l'église de Philippe, l'œuvre de Dieu dans l'église de Toulouse, c'est une œuvre qui dépend de son initiative. C'est lui qu'il nous a choisis, vous et moi, dès avant la fondation du monde, avant qu'il n'ait créé quoi que ce soit. C'est ce qu'écrit le texte en 1 Pierre, où nous lisons que dès avant la fondation du monde, il a désigné son Fils unique pour être le Rédempteur du monde. Paul, il peut regarder tous les problèmes dans l'Église, et avec cette confiance absolue, parce que Dieu est à l'origine. C'est Dieu qui a commencé son œuvre. Et puis, il dit, il poursuit. Il poursuit. Alors, j'aime beaucoup le verbe ici, parce que c'est un... Si on devait traduire de manière plus paraphrasée, on pourrait dire la chose suivante. Dieu est en train de mettre les touches de la fin. Dieu est en train de mettre les touches de la fin. Pourquoi? Il n'y a pas d'image. Tant pis. Mais je ne vais pas dessiner sur le mur. Mais lorsqu'un artiste, un peintre, se trouve devant un tableau qui, pour nous, novice que je suis, me paraît achevé, terminé, le peintre, lorsqu'il se trouve devant ce tableau, pour moi, c'est magnifique, c'est fabuleux. Mais lui, il va prendre encore sa spatule ou son pinceau et il va prendre encore sur sa palette quelques couleurs et puis... Pour moi, je ne vois pas forcément ce qu'il a ajouté. Mais pour lui, le tableau n'était pas fini. Il est en train de mettre les touches de la fin. Vous voyez? Le tableau est terminé, pour ainsi dire. Mais il met les touches de la fin. Et c'est ce que dit Paul ici. Celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, il est en train de mettre les touches de la fin. Pourquoi? Parce que l'essentiel est fait. Le plus dur est fait. On est passé des ténèbres à la lumière. On est passé de la mort à la vie. On est le temple du Saint-Esprit. Il est en train d'opérer en nous pour régénérer notre pensée et finalement transformer notre vie. L'essentiel est fait. Et il est en train de mettre... Quand moi, je regarde l'Église dans cette perspective-là, ça me remplit d'espoir. Ça me permet d'avancer. Dans toute ma carrière, j'ai eu plusieurs fois tentation de jeter l'éponge. J'en avais marre des chrétiens, marre de l'Église. Et parfois, j'avais envie de tout plaquer. Mais ce qui me permet de continuer à continuer, c'est cette idée, l'essentiel est fait. Dans la vie de tous ceux qui finalement parfois, à mon avis, traînent la patte. Mais l'essentiel est fait. Regarde, Dieu est en train de mettre les touches de la fin. Et le texte va plus loin. Il va l'achever pour le jour de Christ. Donc Paul, il affirme haut et fort, devant tous les problèmes qui peuvent exister, Dieu est à l'œuvre. Dieu a commencé, Dieu met les touches de la fin, Dieu va achever. Et moi, je dois regarder l'Église comme ça. Il faut que j'aie cette perspective, cette vision-là de l'Église pour poursuivre dans le ministère. Il y a assez de situations qui me dépassent. Je suis souvent confronté à des situations inextricables, abusées même. Des problèmes que je rencontre dans le ministère aujourd'hui, il y a 40 ans en arrière, on ne les aurait même pas nommés. Celui qui a commencé, il met les touches de la fin et il va l'achever. Ça, c'est le point de départ pour Paul ici. Et la deuxième chose, dernière chose, c'est... une condition rappelée. Vincent et Sam ont participé à des rencontres à l'Institut biblique et nous avons souvent invité ces dernières années Don Carson des États-Unis. Et il a écrit dans l'un de ses livres « Une église n'est jamais plus éloignée qu'une génération de son extinction ». Oh. Une église n'est jamais éloignée plus d'une génération de son extinction. Si vous voulez une preuve, réfléchissez à Apocalypse 2 et 3. Toutes ces églises en Asie mineure disparaissent, pour ainsi dire, sauf une, Mais comment faire en sorte qu'une Église demeure vitale, pertinente? Une Église qui, finalement, ne tombe pas dans le sectarisme. Une Église qui devient multigénérationnelle. Une Église, finalement, qui demeure toujours, toujours sur le front. Est-ce qu'il faut tout simplement devenir fataliste et dire, mais finalement l'histoire de l'Église nous prouve qu'après deux ou trois générations, les Églises deviennent un petit peu des monuments à mettre dans des musées? Ou est-ce qu'il y a ici dans cette lettre une indication pour qu'une Église demeure pertinente? Je crois que oui. Je crois que oui. Et c'est là, tout au travers de ce livre, cette lettre, c'est à partir du moment où l'Évangile et la passion pour l'Évangile est au centre des préoccupations de l'Église. On pourrait transposer, et ce n'est pas une transposition poussée ni forcée, on peut transposer en mission. Aussi longtemps que la mission et la passion pour la mission demeurent une préoccupation prioritaire dans l'Église. Mais ici dans le texte, c'est l'Évangile, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Et Paul décline cette préoccupation pour la centralité de l'Évangile à plusieurs reprises. On va juste les parcourir. Verset 5. Paul rend grâce à Dieu, entre autres, pour la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Pour la part que vous prenez à l'Évangile. De quoi s'agit-il? Certes, dans le contexte, si on lit tout le livre et toute la lettre, on se rend compte qu'il s'agit de finances. Et Paul dit que vous, Philippiens, vous m'avez soutenu de manière fidèle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis 10 ans, vous n'avez jamais failli dans la priorité que vous avez donnée dans votre budget pour le travail de l'Évangile, la mission, si on veut. Et quand on regarde un tout petit peu plus loin, chapitre 4, Paul revient sur ce thème. À partir du verset 15, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà et à deux reprises, vous avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Donc manifestement, lorsque Paul se réjouit de la part que l'Église de Philippe prend à l'Évangile, il parle, entre autres, de finances. Mais ce qui est dramatique dans ce que nous avons lu, ce qui est réjouissant, c'est qu'ils l'ont fait depuis le début jusqu'à maintenant, mais ce qui est dramatique, Paul dit, de toutes les églises qu'il a fondées, de tous ceux qu'il avait amenés au Seigneur, il doit faire le constat, vous avez été les seuls. Vous avez été les seuls. Ça, c'est dramatique. Il avait fondé toutes ces églises en Galatie. Plusieurs autres églises en Macédoine, en Achaïe, en Asie. Et depuis sa prison à Rome, il doit écrire à ces églises de Philippe, merci. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, vous m'avez soutenu. Vous avez pris part à ce message de l'Évangile de manière extraordinaire, mais vous avez été les seuls. Vous avez été les seuls. Et il leur rappelle que lorsqu'il a quitté Philippe, il est allé à Thessalonique, 160 km plus loin. Et lorsqu'il était à Thessalonique, peu de temps, quelques semaines à Thessalonique, mais pas deux fois, l'Église de Philippe a envoyé des messagers avec de quoi pourvoir à ses besoins. Je sais, c'est un sujet tabou en France. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut en parler. L'argent. Personnellement, parce que je ne m'adresse pas à l'Église, personnellement, chacun d'entre vous, quel est finalement votre rapport avec l'argent? Comment est-ce que vous gérez votre budget? Quelle est la part, finalement, que vous vous consacrez à l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que, finalement, vous faites avec vos salaires, vos rentrées d'argent? Mais c'est également une question qui se pose à l'Église. Vous savez, l'une des difficultés, c'est que petit à petit, avec une Église qui grandit et qui croit, petit à petit, on est de plus en plus pris avec l'entretien de l'existant, avec la conciergerie, et de moins en moins la mission, et de moins en moins l'évangélisation. Et Paul dit que si une Église veut demeurer pertinente, il faut que sa réflexion par rapport à tout ce qui est la question d'argent doit être prioritairement ceux qui sont perdus. Prioritairement, ceux et celles qui vont passer l'éternité dans l'enfer, et même si c'est au prix de ne plus pouvoir repeindre l'Église. Il faut réfléchir, les amis. Paul dit, vous avez été les seuls à le faire, mais ce n'est pas uniquement cela. Quand on lit cet épître, il est aussi question d'Épaphrodite, qui a rejoint l'apôtre Paul et qui l'a soutenu. Et Paul dit précisément d'Épaphrodite que vous me l'avez envoyé en lieu et à votre place. C'est rare que je visite une église comme celle de Toulouse et je ne flatte pas, mais c'est rare. Où finalement j'entends et je vois dans l'un des chants 100 jeunes pour l'an 2020. Théologiquement, ça ne tient pas la route. Parce que je ne vois nulle part pourquoi ça doit être 100 jeunes. Et qu'est-ce que vous faites, les retraités? Qu'est-ce que vous fichez? Moïse a commencé son œuvre principale à 80 ans. Alors, 100 jeunes, ça c'est finalement se moquer des gens. 100 personnes, je peux y accéder. Mais de voir les jeunes qui se lèvent, ça me fait beaucoup de bien. Ça me réjouit profondément. Et quand je considère qu'en règle générale en France, la plupart des églises en France n'ont envoyé personne en mission et personne en formation depuis 15 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Je ne cesse de prier par vous parce que vous prenez part à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Non seulement avec les biens matériels, mais avec vos membres. Vous m'avez envoyé Épaphrodite. Je peux continuer, on va terminer. Mais Paul, ici dans cet épître, parle également du combat. Je voudrais juste mentionner deux autres idées et je termine. Il parle du combat pour l'Évangile. Déjà là, au chapitre 1, où il dit qu'il participe également à ce... Paul est en prison à Rome. Nous sommes probablement, vers la fin des années 50, Néron, un empereur fou, malade. Néron est au pouvoir. C'est un fou furieux. Et bientôt, Paul doit comparaître devant lui pour défendre son cas. Il ne sait pas quelle en sera l'issue. Ça pourrait être, finalement, le martyr. Ça le sera quelques années plus tard, en l'an 65 à peu près. Il ne sait pas quel sort l'attend. Et Paul a une perspective de la vie chrétienne qui me paraît juste. La vie chrétienne, c'est un combat. C'est un combat. Et vous, Église de Philippe, vous participez à ce même combat que moi, dit-il ici, au verset 7, au verset 29 et 30, au verset 18, et ainsi de suite. Vous participez au même combat que moi. Nous devrions changer de mentalité ici en Occident. Nous avons besoin, dans nos églises, dans nos pays occidentaux où nous vivons avec une certaine facilité, nous avons besoin de changer de perspective. La vie chrétienne n'est pas un pique-nique. La vie chrétienne n'est pas un barbecue évangélique en continu. La vie chrétienne est un combat. Nous sommes ici sur terrain hostile. Nous sommes sur le terrain de l'ennemi. Nous sommes des étrangers et des pèlerins sur planète Terre. Et nous sommes engagés dans l'un des holocaustes les plus importants qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire du monde. Parce qu'il y a des perdus. Et si nous n'avons pas cette notion que la vie chrétienne est un combat, si nous pensons que c'est tout simplement le fait de participer aux rencontres le dimanche, tu me pardonnes, Vincent, mais d'une certaine manière, même la forme de l'Église milite contre. Parce que ici, on a une estrade avec un soi-disant expert devant, et là, il y a finalement toutes les personnes qui viennent consommer leur Big Mac dimanche après dimanche. Les personnes finalement qui deviennent petit à petit, à cause de parfois l'arrangement de nos églises, ils deviennent des consommateurs. Et Paul dit non. Si votre église doit demeurer pertinente, il faut que cette communauté ait comme perspective de la vie chrétienne que c'est un combat. C.S. Lewis, philosophe chrétien, a dit ceci. Les moments de joie dans la vie chrétienne doivent être considérés comme des auberges et non comme des résidences principales. Réfléchissez. Ah, il y a des moments où on vit des choses fabuleuses, intenses, magnifiques. Mais la vie chrétienne est un combat. Et ce n'est qu'en Occident que nous avons perdu de vue cette notion-là. Et quand on considère que depuis le début du siècle dernier, le XXe siècle, il y a eu plus de martyrs dans l'Église et pour la cause de Christ que pendant les 19 premiers siècles réunis, ça doit nous faire réfléchir. 165 000 personnes chaque année qui deviennent martyrs pour leur foi. Combien longtemps Benjamin va-t-il pouvoir rester en Côte d'Ivoire ? Nous connaissons Benjamin. Nous avons collaboré avec ses parents pendant des années. Combien longtemps va-t-il pouvoir rester ? Combien d'autres personnes vont sacrifier leur vie ? Mais ces personnes qui sont là-bas se rendent compte qu'ils sont en situation de précarité et que la vie chrétienne est un combat. Si nous perdons de vue cela, notre Église est sur la pente descendante. Et pour terminer, dit Paul, verset 27, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile. » Et là, je pense que Paul revient finalement sur l'un de ces thèmes qu'il aborde à plusieurs reprises dans cette lettre. Il faut que notre comportement en tant que chrétien, notre manière finalement de nous comporter soit cohérent avec ce que nous croyons. Il faut qu'il y ait finalement convergence entre ce que nous croyons et ce que nous sommes. Je dirais tout ce que nous faisons à l'Institut biblique à Genève, si il y a des cours, tout ce que l'on veut, introduction, Ancien Testament, Nouveau Testament et tout le reste. Mais notre préoccupation majeure, c'est de nous assurer petit à petit, en accompagnant ces jeunes, qu'il y ait une cohérence de vie, qu'ils vivent ce qu'ils croient. Et Paul dit, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, parce que souvent notre comportement dépend de qui nous regarde et de qui nous observe. Paul dit que j'entends dire de vous que vous demeurez ferme. Même esprit. Combattons d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Afin d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Pas uniformité. Mais cette idée, c'est que dans notre comportement, nous avons nos différences. Nous ne sommes pas tous du même avis sur un certain nombre de sujets bibliques. Mais que nous sommes tellement convaincus de l'importance de communiquer l'Évangile que nous refusons de nous engager dans des faux combats. Et donc, notre comportement en tant qu'individu, en tant qu'Église, c'est de nous avancer dans un même esprit, avec une même pensée, dans une seule pensée. Le monde est perdu et le monde a besoin de Jésus-Christ. Brunner. Je termine. Citation. Théologien suisse, libéral, il a dit ceci. Et il faut que je regarde les notes maintenant. Arrive. La mission est à l'Église ce que la flamme est au feu. La mission est à l'Église ce que la flamme est au feu. Autrement dit, à partir du moment où la mission, où l'Évangile n'est pas au centre des préoccupations de l'Église, c'est comme un feu où il n'y a plus de flamme. C'est que le feu va s'éteindre. Oh, il va perdurer un temps, mais à un moment donné, il va disparaître. Cendre, fini. Il faut ranimer la flamme. La mission est à l'Église ce que la flamme est au feu. Et pour qu'une Église demeure pertinente avec tous les problèmes que l'Église peut avoir, d'une part, il faut avoir cette assurance dans l'œuvre du Saint-Esprit, je suis persuadé. Mais d'autre part, il faut garder l'Évangile au centre. Et ça touche l'argent, ça touche les ressources humaines, ça touche notre perspective de la vie chrétienne, un combat, et ça touche tout notre comportement individuellement et en tant qu'Église. Comportez-vous, dit Paul, d'une manière digne de l'Évangile.